Des clés pour vivre avec Nathalie Cardon.
Résister aux tentations, traverser les tentations dans la vie conjugale, tel est un petit peu le thème que nous essayons de creuser cette semaine avec vous. Bonjour Marie-Aude Binet.
Bonjour à tous.
Alors je rappelle que vous êtes sexologue et conseillère conjugale. Je vous propose d'ouvrir un deuxième angle pour cet entretien sur ces tentations à l'intérieur même du couple et parfois la tentation même d'une femme qui peut prendre, elle aussi, le pouvoir à l'intérieur du couple. Alors, elle s'y prend comment ? Est-ce que vous pouvez aussi nous donner quelques pistes pour approfondir ce thème ?
Alors, c'est vrai qu'on a beaucoup parlé, et on en parle encore aussi beaucoup, du pouvoir de l'homme dans les couples, pouvoir de l'homme sur la femme, à cause de nos traditions du pater familias d'autrefois. Mais en fait, les femmes ont du pouvoir dans les foyers, à travers leur maternité et aussi à travers la sexualité. Donc, deux domaines dans lesquels elles ont toujours eu du pouvoir et elles en conservent, quoi qu'on en dise.
Et elles le gardent.
Et elles le gardent. Et elles savent très bien faire. Alors, je vais le dire très directement. Une femme, elle porte l'enfant, elle accouche, cet enfant, on lui met dans les bras. Et si elle ne fait pas le pas de le mettre dans les bras de son père dans les semaines et mois qui suivent, pour le père, ce sera très compliqué de s'approprier cet enfant et de devenir père. Et beaucoup de femmes ne font pas cette démarche de tourner l'enfant vers leur père. Elles le gardent et ça peut durer très très longtemps. Et c'est une manière de prendre une place qui peut aller jusqu'à un pouvoir. Et donc ça peut être pour le père, l'homme qui est à côté, il peut se sentir du coup dénigré, avoir une difficulté à pouvoir entrer en relation avec son enfant. Alors, les premiers mois de l'enfant, il a besoin de sa mère exclusivement, on le sait, mais il y a un père. Et ce père, il pourra prendre sa place parce que lui le veut, ça c'est clair, c'est aussi à lui de faire la démarche, mais parce que la mère ouvrira l'espace pour
donc
ça.
Donc cette mère doit sortir et puis se donner et le donner.
Tout à fait. Et voilà, c'est un enfant qui a été fait à deux, désiré à deux, en tout cas.
Alors, qu'est-ce qui se passe dans la tête de ces femmes qui ne font pas ce cheminement aussi de donner l'enfant et puis de s'ouvrir, de s'ouvrir à la vie, finalement?
Il peut y avoir un rapport affectif sur l'enfant très, très fort. Et du coup, un déplacement affectif.
Ça dit un manque derrière.
Alors, soit un manque, soit
une
blessure affective.
Quelles sont les carences de la femme?
Alors, il peut y avoir une blessure affective d'elle-même quand elle a été enfant, de ne pas s'être sentie assez aimée par sa propre mère et elle se dit « je ne veux pas refaire la même chose avec mon enfant ». Donc, voilà, elle va là-dedans. Et puis, il peut y avoir quelquefois un moment dans le couple où ça se passe mal. Donc, du coup, elle va reporter sur son enfant le manque affectif qu'elle a avec son conjoint. Enfin, voilà, il y a des choses qui se lient au-delà du simple lien maternel.
Alors, qu'est-ce qui doit alerter la femme si elle se trouve finalement prise un peu dans cercle vicieux?
La plainte de son conjoint qui lui dit « tu ne t'intéresses plus à moi et je ne peux pas accéder à notre enfant ». C'est deux plaintes qui peuvent revenir avec « je me sens dévalorisée quand tu parles de moi, je me sens dévalorisée quand j'essaye de dire quelque chose ». Et puis cette plainte affective du conjoint qui dit « mais tu n'es plus là pour moi ». Donc, c'est-à-dire qu'il y a une mère mais il n'y a plus une femme. Et du coup, l'homme se retrouve privé
de sa relation et de ses enfants.
Tout à fait. Voilà. Et donc ça, et quand je dis que ça peut durer plusieurs années, voilà, c'est réel. Ça peut aller jusqu'à l'âge de 10 ans d'un enfant où ça reste compliqué pour le père de pouvoir rentrer dans cette relation-là.
Donc, c'est un point important que vous soulignez qui peut parfois conduire à un éclatement du couple.
Oui, ça peut conduire à un éclatement du couple. Et puis, ça peut conduire aussi, et on n'y pense pas assez, mais à la souffrance de l'enfant qui sent la tension entre ses parents.
Donc, prise d'otage des enfants un peu.
C'est pas jusqu'à ce point-là, parce que c'est pas une intention de la part de la mère.
C'est pas volontaire.
C'est pas volontaire, mais en tout cas, pour l'enfant, c'est pas si simple que ça de se retrouver dans ces tensions affectives-là, dans ces liens qui ne sont pas complètement ajustés. Et du coup, de pouvoir lier aussi, parce que si la fusion est trop importante avec la mère, il aura du mal à se construire aussi affectivement.
Et puis son identité même.
Dans son identité. Et à l'adolescence, il aura besoin de vivre cette séparation. Et puis, il faut qu'il puisse s'approprier aussi sa relation avec son père. Donc c'est important de laisser cet espace qui se fait progressivement. Encore une fois, c'est pas en sortant de la maternité.
Donc rassure un petit peu les mères auditrices qui vous entendent là maintenant dans cet entretien.
La relation mère-enfant est une relation primordiale qui vraiment permet à l'enfant de dès qu'il est devant dans sa mère, dans le ventre de sa mère déjà, hein, à travers les caresses, la manière dont elle lui parle, dont elle chante, etc. Elle crée un lien affectif avec lui qui est essentiel. Hein. Boubli l'a vraiment bien marqué, ça, dès les premiers temps de l'enfant. Maintenant, l'espace entre la mère et l'enfant est nécessaire aussi. La diffusion est nécessaire au bout de quelques mois.
Donc, il y a cette problématique que l'on peut entendre de fusion, de trop grande fusion de la mère avec son enfant.
Tout à fait. En tout cas, comprendre ce qui est recherché à travers cette fusion et comprendre que c'est bon pour soi de pouvoir rester femme tout en étant mère et donc d'avoir sa vie à côté. Et aussi bon pour l'enfant de se construire avec sa propre identité et sa propre appropriation des liens et des personnes autour de
donc,
lui.
Donc, cette femme devenue mère laisse toute la place à la maternité et en oublie sa place de femme et d'épouse.
Et ça, c'est une grande tentation. Et alors après, souvent... Au bout d'un moment, quand même, elles en explosent. Hein. C'est compliqué de tenir ça pendant...
Et ça sera les deux dernières minutes de ce deuxième entretien. Comment sortir et se réapproprier finalement ce statut d'épouse, hein. Reprendre cette juste place.
Eh bien, c'est de ne pas tomber dans la tentation de tout reprocher à son conjoint en disant que c'est de sa faute à lui. Voilà, parce que ça, c'est une grande tentation.
Alors, tentation même des femmes aujourd'hui.
Voilà, et c'est de dire c'est de ta faute, si je me suis oubliée, c'est de ta faute. Voilà, c'est de juste...
Donc sortir de cet état un peu victimaire.
Oui, tout à fait. Et de se dire, il s'est passé un certain nombre de choses, on ne va pas non plus revenir et culpabiliser tout le monde, ce n'est pas l'objectif, mais juste de constater qu'à un moment donné, eh bien, on a cru que c'était bon et que finalement, ça ne l'est pas tant que ça dans le temps et qu'il y a peut-être à réajuster, voilà, sans je vous dis encore une fois...
Un petit déplacement peut-être, retrouver cette juste place perdue.
Oui, c'est regarder les choses autrement. Donc encore une fois, ce n'est pas de se culpabiliser, c'est juste reprendre sa juste place et laisser aussi aux autres leur place.
Et puis retrouver peut-être ce regard de femme, d'épouse envers ce conjoint et cet époux.
Oui, et pour l'enfant, ce sera bon aussi de voir qu'il y a une femme derrière la maman.
Et bon pour toute la famille.
Oui,
et le couple se retrouve.
Oui.
Et retrouve
ça redonne un équilibre.
On retrouve l'équilibre avec vous cette semaine pour peut-être résister aux tentations qui se présentent à l'intérieur et puis à l'extérieur même du couple. À demain, Marie-Aude Binet. Thank you.